Journal de Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Se passer de 90% du pétrole russe d'ici la fin de l'année. Les Européens auront mis le temps, mais ça y est, ils sont d'accord. Et ce sont des milliards d'euros qui ne rentreront plus dans les caisses de la Russie. Détail dans un instant. Alors qu'une enquête pour crime de guerre a été ouverte à Paris après la mort d'un journaliste de BFM TV dans le Donbass hier. Gérald Darmanin et les faux billets de la finale de Ligue des Champions, y en a-t-il autant qu'il le dit ? C'est toute la question. Votre invité tout à l'heure, Nicolas, n'aura sans doute pas la même analyse que le ministre de l'Intérieur.
Oui, on va le demander au président du Rassemblement National, Jordan Bardella. Il est à notre micro avec Léa dans une vingtaine de minutes, avec vos questions également, amis auditeurs. 01 45 24 7000.
Sus à la nupe, c'est François Hollande qui attaque. Programme inapplicable, l'ancien président l'a dit en Corrèze hier soir. Dans ce journal aussi, les colos qui manquent de bras, les jeunes sont moins nombreux à passer leur BAFA. Et puis Nadal Djokovic, ce soir à 21h, quart de finale de Roland-Garros, le cœur des fans penche pour Nadal.
France Inter.
L'Europe doit montrer sa force car la Russie ne comprend que la force. L'appel de Volodymyr Zelensky aux 27 dirigeants de l'Union a donc été entendu. C'est presque un embargo qui a été décrété hier sur 90% du pétrole russe d'ici la fin de l'année, salué dans la nuit par Charles Michel, le président du Conseil européen.
Nous voulons stopper la machine de guerre russe et stopper le financement de cette capacité militaire russe en mettant en œuvre des sanctions qui visent à faire pression sur le Kremlin. Et ce soir, le Conseil européen a pu s'accorder sur un sixième paquet de sanctions qui vont, pour être concret, permettre de bannir le pétrole russe.
Voilà, se passer du pétrole russe, exception faite de la Hongrie qui a obtenu une dérogation. Bonjour Bertrand Galichet.
Bonjour Florence.
Vous êtes en direct de Bruxelles ce matin. C'est une décision, Bertrand, qui va faire mal aux finances russes.
Oui, l'accord intervenu cette nuit représentera à terme un manque à gagner de plus de 250 millions d'euros par jour pour la machine de guerre russe. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine le 24 février, la Russie a engrangé plusieurs dizaines de milliards d'euros de la part de l'Union européenne en échange des livraisons de pétrole. L'embargo décidé cette nuit sera appliqué progressivement. Il frappera d'abord les livraisons par bateau qui représentent les deux tiers des achats d'or noir venus de Russie. Afin de ne pas pénaliser la Hongrie, très dépendante du pétrole livré par Moscou, une exemption a été décidée pour les approvisionnements par oléoduc. Viktor Orban menaçait de bloquer l'accord européen si cette dérogation ne lui était pas accordée. La France, elle, est moins impactée. L'essentiel de son pétrole vient d'Afrique, seul 9% arrive de Russie. Le Conseil européen va ouvrir dès que possible une discussion sur l'arrêt des fournitures d'or noir par pipeline, l'objectif étant de bloquer 90% des exportations de pétrole russe vers l'Union européenne d'ici la fin de l'année. D'autres sanctions sont prises contre le régime de Vladimir Poutine, notamment l'exclusion de la Sberbank, la principale banque russe, du système financier international SWIFT. Deux autres banques russes sont également concernées.
Alors voilà pour le pétrole et les banques, Bertrand, mais il reste un très gros morceau, c'est le gaz russe. Les Européens ont commencé à en parler, mais là c'est beaucoup plus compliqué.
En effet, 45% des importations de gaz naturel en Europe proviennent de Russie, les principaux clients étant l'Allemagne et l'Italie, une ressource vitale pour leurs industries. Pour l'instant, la piste sur laquelle travaille le Conseil européen est la transformation des infrastructures des 27 pour se passer du gaz russe. C'est donc, vous le comprenez, un projet à beaucoup plus long terme.
Bertrand Galichet en direct de Bruxelles. Sur le front en Ukraine, les forces russes progressent dans l'Est, ne laissant aucun répit au secteur de Severodonetsk. C'est là qu'est mort Frédéric Leclerimov hier, journaliste de BFM TV touché par un éclat d'obus alors qu'il se trouvait à bord d'un bus humanitaire. Et l'on en sait un peu plus ce matin sur les circonstances de sa mort grâce au gouverneur de la région de Lugansk, joint par nos envoyés spéciaux Thibault Lefebvre et Alexandre Abergel.
Il est environ 14h, un bus blindé part de Kramatorsk, il est escorté par des voitures de police. L'objectif, aller chercher 10 civils bloqués à Lysychansk, 80 km plus loin. Frédéric Leclerimov est à l'avant du véhicule quand un obus explose devant le convoi.
C'était un obus de gros calibre, 252 mm, dont les éclats ont transpercé le pare-brise blindé. Les journalistes portaient des casques et des gilets pare-balles, mais l'éclat lui a touché le cou, il ne pouvait pas s'en sortir.
Depuis plusieurs jours, la route de Lysychansk est pilonnée par l'artillerie russe. Des bombardements permanents et sans discernement sur des militaires, des civils en fuite, des humanitaires et aussi des journalistes.
C'est très douloureux pour moi, car le journalisme, c'est un travail risqué et qui est très important pour montrer la réalité et contrer la propagande russe.
Les médias russes qui se sont aussi emparés de l'affaire. Hier, un des officiers des alliés séparatistes du Kremlin a affirmé à l'agence TASS que Frédéric Leclerimov n'était pas un journaliste mais un mercenaire étranger et qu'il aurait livré des armes et des munitions à l'armée ukrainienne.
Et le parquet national antiterroriste à Paris vient d'ouvrir une enquête pour crime de guerre.
Il est 8h06, Florence, qu'est-ce qui n'a pas marché samedi au Stade de France?
Là, c'est l'UEFA qui annonce une enquête indépendante sur la finale de la Ligue des Champions, alors que le ministre de l'Intérieur campe sur l'argument des faux billets détenus en nombre par les supporters britanniques, selon lui. Gérald Darmanin veut désormais des événements sportifs avec des billets numériques seulement.
La logique veut que tous les billets sont désormais électroniques. Vendredi, pour France-Danemark, les billets seront électroniques. Là, il se trouve que les clubs de foot, notamment Liverpool, ont demandé l'intégralité de leurs billets en papier. C'est un peu étonnant. On s'en étonne. L'UEFA l'a confirmé ce matin avec la ministre des Sports et moi-même. Donc effectivement, pour régler les problèmes, la ministre des Sports a demandé à ce qu'on étudie que dans toute compétition qui puisse se dérouler sur le territoire national, désormais les billets soient infalsifiables, c'est-à-dire totalement numériques.
Gérald Darmanin sur TF1 hier soir, qui parle donc de 30 à 40 000 supporters britanniques sans billets ou avec un faux billet présent devant le Stade de France samedi soir. Selon lui, 70% des billets présentés au pré-filtrage étaient faux, sauf que de nombreux observateurs présents sur place en doutent. Explication signée Géraldine Allot de la cellule investigation de Radio France.
Le nombre exact de faux billets est impossible à connaître avec précision. En revanche, ce qui est sûr, c'est que l'UEFA avait alloué 20 000 places aux supporters de Liverpool pour cette finale. Sur ces 20 000 places, la grande majorité, plus de 14 000, étaient des billets version papier. Dès lors, il est difficile d'envisager qu'il y ait pu avoir 3 ou 4 fois plus de faux billets. D'après Gérald Darmanin, 70% des billets qui ont été présentés au stadier au préfiltrage étaient faux. Mais un observateur de l'association Football Supporters Europe, qui est resté de 21h à 22h20 à la porte Y, là où rentraient les supporters de Liverpool, nous affirme qu'il n'a vu qu'une dizaine de personnes munies de faux billets ou de fausses accréditations interceptées par les stadiers. La majorité était français, pas anglais, précise-t-il. Hier soir, de sources judiciaires, on nous disait ne pas savoir d'où Gérald Darmanin sortait ces chiffres.
Géraldine Allot, bannir les armes du Canada, autre mœurs, autre ambition. De l'autre côté de la frontière américaine, où le Premier ministre Justin Trudeau veut interdire l'achat, la vente et l'importation d'armes de poing, projet proposé hier, alors que les familles d'Uvalde au Texas commenceront à enterrer leurs enfants ce mardi. Emmurés derrière leurs masques, voilà ce qui se passe encore dans de trop nombreux EHPAD en France, où des mesures anti-Covid sont toujours en vigueur. Ça fait 2 ans, c'est trop, s'indigne aujourd'hui la Société française de gériatrie. L'EHPAD n'est pas un hôpital, c'est un lieu de vie. Libérer les résidents. Voilà le message de Nathalie Salle, chef de service de gérontologie au CHU de Bordeaux.
Pas de masque dans les transports, pas de masque au cinéma ou au théâtre. Et le port du masque, des restrictions, des contrôles à l'entrée des EHPAD et des résidents, même s'ils sont espacés de plusieurs mètres entre eux, qui doivent porter le masque ou, pour certains, hein, qui n'ont pas vu leurs proches depuis 2 ans, sans port du masque. C'est pas normal qu'on reste sur des précautions finalement qui n'ont plus lieu d'être. Des principes de précaution qui doivent s'arrêter aujourd'hui.
Nathalie Salle, présidente de la Société française de gériatrie et gérontologie, interrogée sur France Info. Près de 600 000 personnes âgées vivent aujourd'hui en EHPAD. Ça y est, elle va pouvoir rembourser ses frais de campagne. Valérie Pécresse a bouclé son appel aux dons. Elle a récolté 5 100 000 euros. Autre grande perdante de la présidentielle, Anne Hidalgo fera son retour au Conseil de Paris, aujourd'hui attendu au tournant par l'opposition et en difficulté avec sa majorité, les Verts et les communistes ayant fait alliance avec la NUP. La nouvelle Union populaire de Jean-Luc Mélenchon est triée par François Hollande et dans son ancienne circonscription de Donznac en Corrèze. Réunion publique pour soutenir la candidate socialiste dissidente aux législatives. Antoine Gignot s'était hier soir en tandem avec son ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve.
Les rideaux en velours rouge sont toujours là. François Hollande aussi.
Comme il y a 34 ans à Donznac, et avec la même énergie.
Un pèlerinage symbolique pour rappeler les racines socialistes tout en attaquant le programme radical de Jean-Luc Mélenchon.
Quitter l'Europe en ce moment, quitter l'OTAN en ce moment, si on ajoute l'augmentation du SMIC, la sixième semaine de congés payés, la retraite à 60 ans, l'augmentation de 10% des fonctionnaires, comment financerait-on l'ensemble de ces mesures? Si ce n'est par la dette, le déficit? Mais tout ça est une illusion, il le sait lui-même.
Dans la foulée, Bernard Cazeneuve ironise sur les leaders maximaux devenus démocrates minimaux et l'ancien Premier ministre défend le bilan du quinquennat Hollande.
60 000 postes dans l'éducation nationale, 13 000 dans la police, 39 000 dans les hôpitaux, on ne le dit jamais assez.
Dans la salle, quelques hochements de tête grisonnantes, regain d'espoir pour certains.
Plus on s'éloigne d'une défaite, plus on se rapproche d'une victoire.
Et l'entourage de François Hollande le précise, l'important c'est la reconstruction avec en point de mire la présidentielle de 2027.
En attendant, il y a un quinquennat à entamer, c'est celui d'Emmanuel Macron. Priorité santé aujourd'hui avec un déplacement à l'hôpital de Cherbourg sur le thème de l'accès aux urgences. 120 services sont en grande difficulté en France selon les urgentistes.
Il est 8h12, qu'est-ce qu'on fait des enfants?
Ça c'est la question des parents. À un peu plus d'un mois des vacances scolaires, il y a bien les colos. Mais là aussi, il manque des bras. Les animateurs se font rares. Illustration à Toulouse avec Hugo Charpentier.
Dans cette agence de voyage qui organise des séjours itinérants, l'heure est au recrutement massif.
On embauche cet été 200 personnes. Il nous manque encore quelques animateurs ou directeurs.
Bernard de Guillem, le directeur de Passion Aventure Junior.
On commence à voir des structures qui vont annuler des séjours, manque de personnel.
La faute à la crise sanitaire qui a poussé pas mal de jeunes à la reconversion.
Pendant 2 ans, on n'a quasiment pas travaillé. Et maintenant, se greffe un peu la crise sociale, aussi économique, où les jeunes préfèrent travailler sur des structures beaucoup plus rémunératrices qu'un contrat qui n'est pas tellement rémunérateur, mais qui est une belle expérience de vie pour encadrer des jeunes.
Le Covid a aussi fait baisser le nombre de formations au BAFA, le diplôme des animateurs. 43 000 en 2019, 31 000 l'année suivante. Baisse importante que constate Rita Bucaré, responsable du CMEA Haute-Garonne, un organisme de formation.
En moyenne, on formait 300 animateurs et là, on a basculé à 50% en moins. Ces métiers en eux-mêmes n'attirent plus. Quelqu'un qui fait 15 jours en colonie de vacances va gagner 600 euros. Les gens préfèrent se diriger vers des métiers un peu plus alimentaires.
Et qui ne nécessitent pas forcément de diplôme, comme le BAFA qui est payant. Alors pour inciter les jeunes, le gouvernement accorde, depuis cette année, une aide de 200 euros.
Hugo Charpentier à Toulouse. Elle veut en finir avec l'enfance et la famille. Constance Debré en lice pour le prix du livre Inter, décerné dimanche prochain avec Non, N-O-M, livre rude, où l'identité s'oppose à la liberté.
Je dirais que c'est un livre écrit à la première personne qui explore la question de l'origine, donc de la famille, de l'enfance et aussi des milieux sociaux. Je reprends quand même un des vieux thèmes qu'on trouve à la fois, effectivement chez les philosophes grecs, par exemple, mais ça peut être aussi ce que dit Abraham au peuple juif, c'est-à-dire qu'il faut quitter l'origine et donc se départir d'un certain nombre de choses, et en particulier de celle-là, pour commencer à penser, tout simplement, et essayer de trouver le juste, finalement. Mais tout ça, je le fais de façon extrêmement concrète, précise, simple, avec ce que j'ai dans mes poches, c'est-à-dire mon enfance, mes parents. C'est ça que j'essaye de proposer finalement dans ce livre.
Qu'est-ce qu'on fait de nos vies?
Oui, il suffit de se poser la question pour que ça devienne à la fois terrifiant et passionnant.
Voilà, Constance Debré avec Eva Bétan qui nous fait entendre chaque matin les auteurs sélectionnés pour le livre Inter 2022. Le jury se réunira dimanche et la révélation du lauréat aura lieu ici même lundi prochain. Rude journée pour les grands du tennis. Hier à Roland-Garros, l'histoire s'arrête en 8e de finale pour le numéro 2 mondial Daniil Medvedev, sorti dans la soirée par Marin Cilic en 3-7. Et Tsitsipas Trépas, 4e mondial, battu par le jeune Danois Rune. En place au quart de finale et à la mère de toutes les affiches, Djokovic-Nadal, ce soir 59e rencontre entre ces deux-là. Sur le papier, c'est le Serbe qui a l'avantage, numéro 1 mondial, plutôt frais. Ces matchs ont été beaucoup plus courts que l'Espagnol depuis le début du tournoi, mais dans les cœurs, c'est Nadal qui l'emporte. La preuve en son royaume avec les spectateurs de Roland-Garros. Guillaume Batin.
Il a sa statue dans les allées de Roland-Garros.
Sans aucune hésitation, c'est pour Nadal. C'est peut-être son dernier tournoi ou un de ses derniers, donc j'aimerais bien qu'il finisse en beauté.
Son nom est inscrit 13 fois sur le flanc du stade Philippe Châtrier.
Moi, mon préféré, ça a toujours été Nadal.
Et dans les allées, Nadal fait l'unanimité.
Nadal.
Pourquoi?
Plus sympathique, et il joue tellement bien.
Parce que Rafa, c'est toute une histoire avec Roland-Garros, c'est le roi de la terre battue et le roi de Roland-Garros.
Le mental, la force qu'il a, la technique. Enfin, il a tout, hein. Il lui manque à rien.
Djoko joue bien, mais il est moins sympathique.
Oui, je le trouve plus faux jeu, moi. Ouais.
Il manque peut-être un peu de sincérité, en fait, Djoko. Voilà. Nadal, il est plus vrai, il est plus nature. Voilà.
Je pense qu'il a du mal à capter le public, peut-être. Il a plus de difficultés à transmettre ses émotions au public. Et c'est peut-être ça qui lui fait défaut. Et on a peut-être plus de mal à se sentir proche de lui par rapport à d'autres joueurs.
Après, que le meilleur gagne. Moi, je suis... On m'a pas froissé les membres de ma famille, il y a deux clans. Ah, c'est un sujet tabou.
Nadal, largement favori dans les cœurs, mais les fans de l'Espagnol le reconnaissent. Sportivement, c'est Djokovic qui est favori.
Voilà, Nadal Djokovic à 21h ce soir, c'est sur Amazon Prime. Mmh. Ce sera gratuit, mais il va falloir s'inscrire. Plus tôt dans la journée et sur France Télé, Alcaraz, le jeune espagnol, versus Zverev.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo? Avec Air France, cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Et c'est assez ensoleillé, Marie-Pierre, ce matin.
Oui, Nicolas, sur les trois quarts du pays, mais on a une zone instable venant d'Espagne qui poursuit sa route, qu'on retrouve ce matin de l'est du Massif central, au Jura, aux Alpes, avec quelques averses. Ailleurs, on a quelques nuages d'altitude, mais le ciel est lumineux et sans nuages un petit peu autour de la Méditerranée. À noter qu'au nord de la Seine, sur le Pas-de-Calais, une averse pourrait tomber sous des températures toujours fraîches pour la saison. C'est descendu à 2 degrés à Chaumont, en Haute-Marne, comme dans l'Orne. Pas plus de 4 degrés à Guéret et à Épinal, 13 à Bordeaux et à Paris, et 20 à Morte.
Et cet après-midi, un ciel un peu plus menaçant.
Oui, toujours sur cette zone comprise entre l'est du Massif central, le Jura, en descendant sur les Alpes, où les averses prendront un caractère orageux, accompagné parfois même d'un coup de tonnerre sur les Savoies. Et sur l'extrême nord, on aura quelques nuages qui vont circuler, avec quelques gouttes qui pourraient tomber sur la Normandie, à l'Île-de-France, à la Picardie, à la Lorraine. Ailleurs, vous passerez un après-midi agréable, ensoleillé, avec quelques cumulus d'altitude. Avec un vent de sud-ouest sensible dans le sud-est, le centre et vers le Cotentin, il fera plus doux au nord et plus chaud au sud. 17 à Granville, 18 à Lorient, comptez 22 à Paris comme à Biarritz ou Volvic, 24 à Strasbourg comme à Nice, 26 à la Grande Motte, bon, ça va monter à 28 à Marseille et à Vallon-Pont-d'Arc en Ardèche.
Merci Marie-Pierre. France Inter, 8h10.